This is the sound of a man who unexpectedly fell into cold water and instinctively is trying to swim hard. This is the sound of the cold water shock making him gasp uncontrollably and breathe in water until he drowns. Whereas this is the sound of a man who fell into cold water and knows how to survive. You have to fight your instinct to swim and just float until the cold water shock has passed and you can control your breathing. This is a safety message from the RNLI. Float to live. Visit respectthewater.com.
RMC. Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we go to fish. Hein?
Gilbert Bribois.
On est là jusqu'à minuit dans l'after, vous le savez, comme tous les soirs. Bien sûr, tiens, un supporter algérien, prenez rendez-vous. Hein, tout à l'heure, vers 23h35, équipe type, équipe pipe de l'histoire de l'Algérie. On a fait le Sénégal, on a fait le Cameroun. Ce soir, c'est au tour de l'Algérie. Je sais qu'il y aura Rabah Madjer. Voilà. Y aura-t-il du Tasfaout, du Moussa Saïd et autres? Ce sera tout à l'heure. N'hésitez pas à nous appeler 32-16 dès maintenant. François Malardo est là, Kevin Diaz est là et donc Maître Brouza, Carlo Alberto Brouza, avocat, donc spécialisé dans le foot aujourd'hui. Alors, venons-en à notre problème d'actu du moment. Ces joueurs qui sèchent l'entraînement, j'imagine qu'ils font pas ça sans être conseillés. Griezmann, par exemple, pour prendre le dernier cas, il va pas à l'entraînement, il y a des négociations en cours, c'était le cas avant, d'autres joueurs l'ont fait, Dembélé l'a fait, Coutinho l'a fait, bref, il y a plein de cas comme ça. Là, vous intervenez. Enfin, j'imagine que c'est pas possible qu'un joueur se lève un matin en disant je ne vais pas à l'entraînement.
Il est clair que quand nous sommes saisis dans ces situations, nous mettons en place une stratégie. Voilà. Nous l'avons déjà fait, cela était le cas. Parfois, vous avez des stratégies qui sont adoptées aussi par les clubs. Celui d'empêcher un entraîneur de pouvoir entraîner, c'était le cas de Bielsa à Lille, c'était le cas de Passy à Marseille. Et après, il commence en bras de fer, parfois s'achève avec une négociation, parfois avec une rupture et des procédures judiciaires.
Voilà, donc
concernant les joueurs, la situation est beaucoup plus compliquée. Pourquoi ? Parce que un joueur qui sèche peut effectivement courir le risque d'être licencié. Vous savez très bien, de toute façon, si on prend la France, il y a la saisine de la commission qui est appelable obligatoire, jusqu'à l'appel, et après, de toute façon, on peut travailler et contester. Il n'en demande pas moins que pour, vous prenez la situation de Neymar, le bras de fer n'est pas pour être licencié, parce que ça serait quand même...
Il aimerait bien être licencié.
Peut-être, c'est le cas. Il n'en demande pas moins que ce n'est pas l'intérêt du PSG de licencier, parce que le licenciement se permettrait de libérer, donc de ne pas valoriser une éventuelle revente.
Ce ne serait pas un licenciement économique, là,
donc. La situation est d'une extrême complexité. En réalité, la situation elle est beaucoup plus compliquée du côté du joueur que du côté du club. C'est du côté du joueur, pourquoi ? Parce qu'en réalité, le joueur se met en opposition avec le club. Et vous savez très bien que l'attitude d'un joueur et son attitude qui est connue après par les autres clubs, ça génère une
l'effet boule de neige.
De faire de boule de neige et surtout de
gâcher l'image. Oui, ça renvoie une mauvaise image, quoi.
C'est une image et aujourd'hui, on a peur de cela.
Maître, vous m'avez parlé de Florentino Pérez et du Real Madrid. Mais ici, on a Fred Hermel qui dit quand même souvent que le Real aime bien lorsqu'un joueur émet fortement l'idée à son club qu'il a envie d'aller au Real, alors peut-être pas aller jusqu'au bras de fer, mais quand même, on va dire, commencer à mettre des fritures sur la ligne. Vous voyez ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Donc, vous dites que ça ternit un peu l'image de certains joueurs envers certains clubs, comme Rennes, par exemple, qui a refusé, je crois, de prendre un joueur qui s'était, cette semaine d'ailleurs, qui avait un peu séché l'entraînement dans son précédent club. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais il y a aussi des clubs qui voudraient avoir le joueur, qui peuvent l'encourager.
Oui, mais la situation, c'est quelles sont les conséquences, quelle est la stratégie ? Vous prenez la situation du conflit de Rabiot avec le PSG, amener quoi ? Amener ce joueur à être mis à l'écart. Aujourd'hui, moi je considère qu'il a une chance extraordinaire d'intégrer la Juventus, parce que ça lui permet de rebondir. Mais la situation était assez catastrophique, parce que l'image de Rabiot auprès des clubs n'était pas une belle image. Pourquoi? Parce que considéré comme quelqu'un qui facilement se met en opposition. La position de Neymar est un peu différente. Aujourd'hui, vous avez une situation qui est d'une extrême complexité, un investissement de plusieurs 250 millions et plus. Vous avez quelqu'un qui semble ne plus avoir envie de jouer à Paris. Les alternatives sont compliquées parce que Griezmann vient d'arriver au Barça et aujourd'hui, la situation, pour moi, devient encore plus compliquée. On ne sait pas quelles seront les déclarations à venir, mais aujourd'hui, est-ce qu'on va mettre sous le banc Neymar? Neymar, en ce moment-là, il va faire ce qu'il veut, ça veut dire que s'il veut prendre 15 jours de vacances en plus, il va prendre 15 jours, ils vont le sanctionner.
On parle de, que ce soit le Real Madrid, que ce soit Neymar, on parle d'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur club au monde, donc il y a une position, une posture un peu différente de milliers d'autres clubs professionnels à travers le monde, et Neymar, un des trois meilleurs joueurs au monde, donc c'est des traitements assez particulier. Moi, je voudrais, par rapport à ce qu'on est en train de se dire aussi, revenir sur une remarque que vous aviez faite avant la coupure pub, où vous parliez du joueur, quand vous le conseillez, vous êtes à ses côtés, comme d'une entreprise. Et moi, le terme me chiffonne un petit peu, parce que je le qualifierais plutôt comme un actif qui s'insère avec d'autres actifs, pour former un vestiaire, au sein d'une entreprise. Et vous-même, vous me le disiez pendant la coupure pub, il y a de toute façon une relation de subordination avec l'employeur, c'est-à-dire le club, dans cette relation de subordination.
Et plus aujourd'hui, hein.
Dans 99% des cas.
Plus aujourd'hui.
Non, mais dans les textes, dans les faits. Enfin.
Dans les faits, peut-être dans les textes, mais
c'est-à-dire pour finir mon argument. C'est-à-dire que, dans le monde professionnel tel que nous le connaissons pour la grande majorité, bon, même Kevin est le seul autour de cette table a été joueur professionnel, mais, lorsque on sèche un entraînement, lorsqu'on se met en faute vis-à-vis de son employeur, il peut y avoir sanctions, voire ensuite des procédures qui sont mises en place. Dans le cas du football, c'est un peu différent. Mais quand vous parlez d'une entreprise, pour un joueur, on a tout de suite le sentiment que, en fait, on peut comprendre que le joueur, entreprise, face à l'autre entreprise qui est le club, eh bien, vous l'avez dit vous-même, il y a une stratégie qui peut se mettre en place, des conseils évidemment, pour que, eh bien, si tu vas au fight, on pourra trouver une solution. Alors que dans le monde classique de l'entreprise, évidemment, il y a le tribunal des prud'hommes, mais si on sèche le boulot, ça penche pas en notre faveur, bien au contraire. C'est ça qui est assez particulier, alors, votre vision de l'entreprise joueur.
La réponse, elle est simple et compliquée. En réalité, est-ce qu'on peut dire qu'un joueur de football est un subordonné comme n'importe quel salarié d'entreprise? Ce n'est pas le cas. Moi, je dis que c'est une entreprise parce que pour moi, c'est un prestataire. Pour moi, la subordination, elle est dans l'organisation, dans le fait que l'employeur doit mettre le vestiaire en place. Mais en réalité, après, le joueur, c'est un acte d'amour quand il va se mettre d'accord pour le salaire, pour le montant, l'engagement et tout.
Acte d'amour, là, vous êtes un peu dans la c'est le mot acte d'amour. Pardon, mais
vous savez,
il y a plus un acte financier.
Oui, mais vous savez.
Non, mais il y a certains chèques à partir d'un certain montant, c'est un acte d'amour.
Ça génère l'amour.
Ah, voilà. Le mot acte d'amour.
Vous voulez dire que
vous êtes atteint, alors je veux bien, mais.
Vous voulez dire que QSI avec Neymar, là oui, c'est un acte d'amour, c'est sûr. Non, mais c'est vrai.
Ce que je suis en train de vous dire. Sans
blaguer. Si. C'est l'investissement qu'a fait le Qatar ou le Paris Saint-Germain.
Dans les 222 millions, c'est un acte d'amour, c'est ce que tu veux dire.
Bien sûr, ça veut dire que, non, mais ils veulent vraiment Neymar, ils ont tout fait pour l'avoir. C'est vraiment un acte, non, sans blaguer.
Mais en fait, vous êtes plus dans une relation de client à fournisseur, en fait.
C'est-à-dire que, l'autorité, le contrôle, la direction que vous avez comme critère de la subordination dans le droit du travail ne sont pas les mêmes dans le cadre du joueur de football.
C'est très intéressant, ça.
Et ça, c'est la dichotomie. Pour moi, mais c'est une discussion qui existe en doctrine, est-ce qu'un joueur de foot est un prestataire ou un salarié? Et d'ailleurs, on voit très bien que quand le fait qu'on fasse intervenir la commission juridique qui tente de concilier, etc., c'est un acte un peu préalable qui permet de amener l'échange dans une approche qui est beaucoup plus dialectique et transactionnelle et pas immédiatement sur l'approche
du parangère. Maître, sans jeter la sémantique à la figure, salarié ou prestataire? Parce que quand le joueur part en vacances, il est payé. Alors que le prestataire, quand il est en vacances,
vous pouvez avoir un prestataire dans lequel vous mettez d'accord que dans le cadre de la pause de l'existence d'un contrat. Ça, ce n'est pas ça. Le critère du droit du travail est la subordination, l'autorité et la direction. Ce sont ça les critères.
Alors.
Qui n'est pas toujours le cas. Est-ce que Neymar, il est vraiment sous la direction, l'autorité et le contrôle?
Je ne crois pas. Je veux répondre.
La réponse est non. Puisque de toute façon, au final, il fait ce qu'il veut.
Voilà. François. Tu vas pas me dire que tu découvres, normalement, il y a souvent quelqu'un à ma place qui s'appelle Daniel Riolo, qui le dit souvent, je suis complètement d'accord avec lui, mais aujourd'hui, dans beaucoup de clubs en France, mais pas que en France, mais les patrons, ce sont les joueurs aujourd'hui.
Non, ça, alors, ça, c'est la réalité.
Attendez ce que j'ai dit. Les patrons, ce sont les joueurs. Kevin. Salariés, ni... Ce sont les patrons, Kevin. Pas tous les joueurs.
C'est pas la question de ce que je découvre, Kevin. C'est la question de la dichotomie, comme l'a dit le maître, et je l'ai vécu aussi de près, entre la lettre et l'esprit. Moi, j'aime bien la lettre, je suis plutôt légaliste. Après, dans l'esprit, entre guillemets l'esprit, parce que c'est un esprit tordu parfois, voire tout le temps, on a affaire à des relations. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien dans l'explication de Maître Botta, c'est le côté, en fait, c'est pas une relation de subordination classique. Ça me fait du bien de l'entendre de la part d'un homme de droit.
On le savait. Par exemple, quelque chose qui est très simple. Le PSG a été acheté moins de 50 millions d'euros. On est d'accord?
Non, plus, un peu plus. 70 ou 80. Non,
bon, enfin bon, ouais,
oui.
Moins de 100.
Moins de 100 millions d'euros.
Ouais.
Neymar a été acheté 220 millions d'euros. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, il y a déjà une relation qui est disproportionnée.
Non, mais certainement.
Tu vois ce que je veux dire?
Mais alors, le message de Leonardo, contrairement à ses prédécesseurs, où il remet un petit peu le club par rapport à la place qu'il devrait tenir.
Parce que Neymar n'aurait jamais dû être acheté 220 millions d'euros. C'est ce que les gens oublient. La clause de Griezmann, elle est à 700 millions d'euros.
800. Avec les chiffres...
800 millions
d'euros. T'étais à 100 millions près, Kevin.
Moi, j'avais lu 700.
Non, mais 700, c'est Messi. Mais bon, bref, attends,
vous dites tous les deux quelque chose de vrai. Le truc, c'est que la club de foot, c'est de la dentellerie. C'est-à-dire qu'il faut savoir, justement, composer avec tout ça. Il y a un directeur sportif qui réussit, et Leonardo, il en est l'exemple, parce que globalement, il a réussi au PSG avant de partir. Maintenant, il est revenu.
Milan, c'était un peu moins.
Bon, non, mais je veux dire. C'est-à-dire qu'il il arrive à mesure, lui, à arriver à ménager comme ça les différents actifs dont tu parles, avec le pouvoir en place du club et tout. C'est ça, c'est de la dentellerie du foot.
Cet équilibre-là est fondamental.
Le premier échec de Leonardo est déjà le fait que Neymar ne se soit pas présenté à l'entraînement. Permettez-moi de vous dire, c'est bien le signe que même lui qui est arrivé, et j'ai beaucoup d'estime pour Leonardo.
C'est pour ça qu'on attend avec impatience la réponse.
Mais quand je dis un échec, je ne dis pas que c'est un échec lui imputable, mais un échec d'une conception de l'entreprise ou du bleu qu'on veut avoir, c'est que Neymar, il s'en fout réellement, et il est au Brésil, il va faire une interview, il va participer à une émission pour les fêtes de fin d'année, il va promouvoir, il ne rentre pas, alors que normalement il devrait être.
Maître, je veux juste finir, 30 secondes. Donc tu me disais c'est 800 millions Griezmann, j'avais lu cette.
Oui, c'est la clause.
Bon, la clause elle est à 800 millions d'euros. Mais ce que les gens faut bien qu'ils se rappellent, c'est qu'une clause n'est pas faite pour être c'est une clause qu'on a mis pour se dire bon lui s'il part c'est parce qu'on a décidé. En gros, c'est ça c'est la clause. Donc les 220 millions, rappelons-nous, qui avaient été mis dans le transfert de dans le contrat de Neymar il y a 4 ans. C'est aujourd'hui les 800 millions. Ça veut dire qu'on pensait que personne jamais mettrait 220 millions pour acheter
que
Neymar.
Le Paris Saint-Germain n'aurait pas dû payer.
Mais d'ailleurs, il n'aurait pas dû payer puisque c'était une clause. C'était une clause, c'était un prix qui était démesuré.
Kevin,
et aujourd'hui, il ne vaut même plus les 220
millions.
Hier,
on s'amusait, on se dit, mais ils ont dit 800 millions le Barça. Mais en fait, ça sort d'où ce chiffre? Parce qu'on s'est dit, comment ça marche dans les discussions? Peut-être que vous allez pouvoir nous répondre.
Parce qu'il
y a peut-être une grille ou quelque chose qui dit, ça ne se joue pas à l'apéro. Là, oh, on fait quoi? 800, 900?
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Normalement, les clauses ne sont pas faites pour être...
Les clauses sont des clauses qu'on appelle barrage.
C'est-à-dire
que le but, c'est d'empêcher le départ du joueur.
C'est ce que je viens
de dire. Mais en réalité, on est en train de vivre quelque chose qui est assez extraordinaire. C'est que quand, à l'époque, on faisait des clauses pénales, étaient devenues des clauses d'indemnisation forfaitaire. Je vous le dis, un droit. C'est pour ça qu'il est très intéressant de l'échange entre l'avocat, l'agent, parce qu'on a une connaissance des choses qui nous permet d'apporter des réponses. Quand on dit une clause d'indemnisation forfaitaire, c'est qu'en réalité, c'est clause barrage. Au fond, on dit, c'est une clause d'indemnisation forfaitaire. Et le fait de perdre tel joueur, ça coûtera 250 millions, ou ça nous indemnisera de 250 millions. Et en réalité, quand on regarde même là, le cas de Neymar, mais, permettez-moi de vous dire, l'achat de Neymar est une affaire merveilleuse. Pour le PSG, c'est une affaire merveilleuse. Quoi qu'il en soit, j'avais été invité une fois lors d'une émission, j'avais donné 1 milliard de chiffre d'affaires pour 2020 pour le PSG. Nous y sommes presque. Dans l'année prochaine, le PSG sera dans le club fermé des 4 ou 5 clubs du monde où plus d'1 milliard de chiffre d'affaires.
Financièrement.
Absolument.
Donc c'est
partie grâce à Neymar.
Bien sûr.
Neymar a apporté, excusez-moi, quand vous prenez 220 millions et que vous avez 63 millions de followers, que vous avez une pub qui vaut 1 euro de followers,
mais
vous avez déjà c'est la notion d'entreprise que je veux vous apporter.
Maître, je suis complètement d'accord avec vous. C'est juste que vous parlez d'un côté, comme disent les Italiens, business. Ça, c'est le business du football. Mais le terrain, c'est le rectangle vert.
Oui, mais
avec
ça,
11 individualités qui doivent jouer ensemble.
Alors, Kevin, là, en revanche, c'est toi qui vas pas.
Laisse-moi finir d'aller où je veux en venir.
Monsieur Le Graët a évolué à ce niveau-là.
Bien sûr qu'au niveau financier, qu'au niveau de la vente des maillots et du business, Neymar, c'est beau. Moi, j'ai envie d'emmener mon fils.
Je parle du jeu.
J'ai envie d'emmener mon fils au Parc des Princes voir Neymar et Mbappé. Mais au niveau du football,
ce que vous regardez aujourd'hui,
c'est un échec.
Non, ce n'est pas vrai. Depuis que vous avez ce football extraordinaire, vous avez des matchs qui sont la vitesse, la qualité du jeu. Mais, excusez-moi, mais il faut arrêter de raisonner d'une manière judéo-chrétienne. L'argent, ça fait partie du jeu.
Moi, je parle
c'est-à-dire
pas de l'argent.
Que c'est aujourd'hui, la plus belle entreprise au monde, c'est l'entreprise de football, qui relie des milliards de personnes autour d'un sport.
On est tous d'accord.
Alors, à partir de là.
On est tous d'accord. Mais
ne nous plaignons pas. Je dirais même que le football aidera certainement même des parties du monde que les autres hommes politiques ont utilisées pour des colonisations. Le football aidera peut-être à faire renaître certaines parties du monde. Et d'ailleurs, même
Il faudrait qu'ils partagent beaucoup.
Toute économie a besoin de régulation.
Kevin, deux questions concrètes.
Elle existe encore. La dérégulation totale.
Deux questions concrètes à Maître Broussard. Première, le cas Griezmann. Donc vous avez suivi ce qui s'est passé, 120 millions, et puis l'Atlético qui dit oui, mais non, en fait la clause elle était à 200 parce qu'ils se sont mis d'accord en mai, tout bon. Aujourd'hui, l'Atlético dit on va saisir la FIFA pour contester le montant de la clause libératoire. Nous on veut 200 parce qu'on estime qu'ils étaient d'accord en mai et tout, et pas 120. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez qu'ils vont obtenir 80 millions en plus ou jamais de la vie ?
Non, ce type d'action est souvent faite pour ensuite négocier une solution transactionnelle et d'éviter. Aujourd'hui, il y a une chose qui est acquise, que juridiquement, il faut que ce soit être clair, Griezmann est au Barça. Le problème est un problème seulement de clause et pas de transfert. Ça, c'est un premier point. Sur la question au prix du montant, je ne connais pas de dossier, je serai une sorte de voyante pour vous dire que ça sera l'issue, mais je pense que c'est pour provoquer des situations. Et il est clair qu'aujourd'hui, Griezmann à 120 millions, ça fout les boules, utilisant cette affaire pour l'Atlético. Ouais. Et là, c'est pas du droit, c'est plutôt quelque chose. La deuxième chose.
Hier, j'ai reçu des messages, on dit, ouais, vous arrêtez pas de dire que le Barça, ils font exprès de faire la, moi, on a une liste. Moi, je vais vous dire, le Barça, c'est peut-être le hasard. En 2017, Coutinho est en négo avec le Barça. Comme par hasard, il cesse l'entraînement à Liverpool. En 2018, Dembélé est en négo avec le Barça. Comme par hasard, il cesse l'entraînement avec Dortmund. En 2019, Griezmann, bon, on peut ajouter éventuellement Neymar, même si aujourd'hui, il est encore loin du Barça. Mais enfin bon, est-ce qu'il y a des clubs qui ont comme ça des stratégies
Tu veux dire qu'il influence les joueurs
habituels, qui influence les joueurs et donc leur entourage.
Attendez,
si vous voulez venir chez nous, faites comme ça, vous allez voir, ça va marcher et puis on va mettre en place une stratégie ensemble pour arriver à faire le transfert.
Alors, je peux vous assurer parce que j'ai la chance de connaître pas mal le Barça et un peu ses dirigeants. C'est absolument pas quelque chose qui fait partie de leur philosophie.
Très bien.
Je me permets de vous le dire et c'est quelque chose. Je pense et je vous le dis par contre que l'envie d'aller jouer au Barça est
énorme.
Énorme. Rien.
Et donc le joueur est prêt à tout pour y aller.
Je peux vous dire. Et aujourd'hui, on a quand même vu Neymar, même si on vous exprimait, et je le suis absolument d'accord avec vous, des doutes sur ce qu'il sert à l'issue. Il y a quand même une situation qui me paraît claire. Aujourd'hui, il y a une situation de désamour de Neymar. Neymar a fait quand même des déclarations d'amour à nouveau pour, et le retour de Neymar au Barça n'est pas incompatible avec Griezmann et avec Messi.
C'est une info que vous nous lâchez là.
Ce n'est pas incompatible.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Et je me permets de vous dire une chose. Vous avez oublié l'enquête pénale. Vous avez oublié qu'il y a eu sur le territoire français une affaire qu'on appelle de viol ou d'agression sexuelle.
Résumé.
Qui fait que cette plainte, elle est au Brésil, mais que tout fait de nature pénale sur le territoire de la République en application de l'article 693 du Code de procédure pénale permet au procureur d'ouvrir une enquête pénale. Or, quand je vous parle en tant que conseil de Ribéry qui s'était retrouvé quand même en main correctionnel pour une affaire d'un niveau nettement inférieur, il a fallu se battre pendant des années pour que j'obtienne la relax. Là, il n'y aurait pas d'enquête. Ce que je peux vous dire.
En Espagne, c'est le cas aussi?
Je peux vous dire que pour M. Neymar, il y a aujourd'hui une entraide internationale entre la France et le Brésil concernant l'enquête pénale. Ça, c'est une certitude. Mais qu'il n'y a il est impossible, et ça serait même contraire aux règles de droit, que lorsqu'il y a des faits de nature criminelle sur le territoire de la République, le procureur de la République ne se saisisse pas de ces faits.
Oui,
ça veut dire aussi qu'il peut y avoir le risque, et je l'exprime en tant qu'avocat, que M. Neymar, revenant en France pour des faits qui sont déroulés dans un hôtel parisien sur le territoire français, puisse être entendu et qu'il y ait une enquête pénale ouverte pour agression sexuelle.
Donc, sous-entendu, s'il partait en Espagne aujourd'hui, peut-être que ça lui permettrait d'être tranquille.
La territorialité, c'est
comme,
sûr que...
Comme Ronaldo n'a pas voulu faire la tournée aux States, ils sont partis en Asie.
Je vous rappelle aussi que Ronaldo connaît une situation extrêmement compliquée sur un plan fiscal, et que le départ en Italie était bienvenu, parce que je rappelle aussi, entre autres, que le décret italien qui a été pris, ce qu'on appelle decreto crescita, aujourd'hui permet aux joueurs qui rentrent ou qui vont jouer en Italie d'aller payer des impôts sur la moitié du salaire perçu. C'est-à-dire que quand vous touchez 10 millions d'euros en Italie, vous n'allez déclarer que 5 millions et que ce sont les 5 millions qui est la base imposable. C'est pour cette raison que vous avez quand même un champion d'Italie qui cette année sera extraordinaire, avec des jours extraordinaires, parce que sur le plan fiscal, aujourd'hui, ça sera que la moitié de leur salaire qui sera imposable
au impôt
de revenus. Je vous dis ça.
Les clubs français essayent en ce moment d'essayer d'obtenir des ristournes aussi fiscales, mais pour l'instant, j'y arrive pas.
Mais il n'y a pas de texte. Aujourd'hui, c'est du gré à gré. C'est le cas du PSG quand il négocie effectivement pour certains joueurs, parce que quand même les sommes en termes d'hier sont énormes, mais le decreto crescita a fixé à 50% le montant du revenu déclaré qui sera imposé à un revenu.
C'est une fleur.
C'est pour ça que le niveau de l'Italie ces derniers mois, ces dernières années remonte.
Absolument. Et Pogba, non mais c'est vraiment un décret qui est entré en vigueur là. C'est-à-dire le decreto crescita est applicable pour les cadres supérieurs qui rentraient, et c'est Pogba aujourd'hui peut...
Alors vous me dites, vous êtes en train de m'apprendre pourquoi Delire t'a choisi la Juve plutôt que le Barça.
Je vous assure. Fiscalement parlant, aujourd'hui, 10 millions d'euros, c'est 5 millions déclarés en impôts, c'est quand même 50% d'économie fiscale quand vous allez jouer aujourd'hui en Italie, et c'est énorme. C'est pour ça que là aussi, on parlait de concurrence déloyale en termes d'agents, vous avez une concurrence déloyale parce que nous manquons d'une homogénéité fiscale. Est-ce que c'est juste que aujourd'hui le décret permet à l'Italie, on va dire c'est merveilleux, en Italie, voyeur de bonjour, mais c'est quand même quelque chose d'inacceptable.
Dernière question, le cas Adil Rami. Oui. Donc là, je ne sais pas si vous avez suivi de près cette actu-là, mais...
J'étais l'avocat d'Adil, je me suis occupé du problème qu'il avait rencontré à Valence à l'époque.
Et là, et maintenant,
c'est moi
il se retrouve.
La solution transactionnelle avec Valence.
Là, je ne sais pas s'il vous a sollicité ou pas, mais enfin, il se retrouve
mis de côté
par Marseille, dont on veut le virer, en essayant de trouver des fautes graves. Il a raté l'entraînement, il est allé faire Fort Boyard alors qu'on n'était pas au courant et tout. Donc là, il va avoir besoin d'un avocat. Qu'est-ce que vous conseilleriez là?
Moi, je suis déjà dans une position d'être le conseil de Monsieur Bédimon, qui est un contentieux qui a vécu la même chose. Il était licencié pour faute grave parce que il aurait soi-disant
pour
l'OM
un centre de formation à Montpellier.
Oui, mais on parle quand même de quelqu'un qui donnait moitié de son salaire pour l'Afrique et pour que des jeunes puissent jouer. Et j'ai tous les éléments. On verra bien ce qui va se passer et la justice tranchera. Aujourd'hui, il est clair, les manœuvres. Je me suis exprimé, je veux rester dans une sorte de réserve. La gestion de l'OM est une gestion qui est faite par un monsieur qui s'appelle McCourt avec un monsieur qui s'appelle Hérault. Ces gens-là n'ont pas une expérience dans le monde du football, une culture footballistique comme beaucoup d'autres, je dirais, dirigeants d'entreprise. Monsieur Lass, on peut le critiquer, mais c'est aujourd'hui un homme d'expérience d'entreprise. On voit très bien que sa manière de gérer les problématiques est faite d'une manière différente. Cette manière-là n'est pas une manière de gérer les situations. Adil Rami, c'est un champion du monde. Peut-être c'est quelqu'un qui...
Il a des droits également, maître.
Bien sûr qu'il a des droits.
C'est pour et des devoirs.
Il a des droits et des devoirs. Ouais. Mais mettre tout de suite sur la place publique cette affaire, c'est une erreur pour moi déjà de communication. C'est une erreur de stratégie en termes de gestion d'un effectif et c'est une manière aussi, au fond, de se tirer des foudres parce que l'OM vient déjà d'une année calamiteuse et la manière dont il gère aujourd'hui la transition du départ de Garcia et peut-être ce renouveau n'est pas une manière sérieuse d'être faite. Il y a imputé des fautes graves parce que quelqu'un est allé à Fort Boyard sans l'annoncer. La faute grave, c'est un comportement qui nuit à l'entreprise, qui porte atteinte au bon fonctionnement et qui justifie la rupture immédiate du contrat. Or, si vous considérez qu'aller à Fort Boyard pour un joueur de foot, c'est porter atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise, je pense qu'il y a
encore Il le fait sans prévenir, ou alors il le fait très tard, il est en rééducation, en tout cas il est en convalescence. Alors, dans les contrats, il y a quand même beaucoup de clauses aussi pour les joueurs, pour ne pas telle et telle activité.
Vous le savez, c'est de la charte de football.
Je vous écoute, je vous entends, mais...
Allez, on conclut, hein, François.
Je pourrais avoir le sentiment que si vous étiez avocat de l'Olympique de Marseille, vous pourriez trouver les arguments pour votre client
en disant que Adil Rami, c'est ça, mon avocat.
Moi, il ne s'est pas comporté de manière très professionnelle.
Même si je ne suis plus le conseil d'Adil Rami, quand on était le conseil d'un joueur comme Adil, on ne peut qu'avoir des sentiments d'affection. Et aujourd'hui,
c'est un garçon attachant, je le dis indépendamment.
Et il est clair qu'aujourd'hui, je ne me permettrai pas de dire qu'Adil Rami a commis de fautes, parce que d'abord, je pense pas qu'il est commis. Et d'autre part, je pense que un joueur qui était champion du monde, on peut avoir quand même l'art et la manière de traiter les personnes et de ne pas mettre sur la page publique des situations qui peuvent être traitées d'une manière beaucoup plus.
Vous envoyez un drôle de message dans le club.
Merci, hein, Maître Brouza, c'était très intéressant. J'en lirai quelques-unes, mais voilà. En tout cas, on a appris plein de choses. On n'est pas d'accord sur tout. Hein, je le vois avec François, hein, mais
pas d'accord.
C'était intéressant. Merci en tout cas d'être venu dans l'after et à la prochaine pour évoquer tous ces sujets. Nous, on va complètement changer d'univers. Alain Giresse avec nous dans quelques instants pour parler de la CAN et de la demi-finale de demain de la Tunisie face au Sénégal.
RMC, l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Kevin Diaz est là, François Manardo également, c'est l'after jusqu'à minuit. Tiens, je vous donne le programme de l'heure et demie qui vient, la CAN au programme, donc supporters des équipes encore qualifiées, on vous attend. Les autres aussi d'ailleurs, hein, si vous êtes passionné par cette CAN, n'hésitez pas à nous appeler. Qui voyez-vous comme favori? Comment vont se passer les demi-finales de demain? Ce sera sur RMC, hein, demain soir à 21h, Algérie-Nigeria, et à 18h demain, le match entre la Tunisie et le Sénégal. On va d'ailleurs tout à l'heure s'amuser à élaborer ensemble l'équipe type et l'équipe pipe de l'histoire de l'Algérie. Ce sera aux alentours de 23h35, et puis on reparlera également dans l'after tout à l'heure des propositions françaises de réforme de la Ligue des Champions, puisque la Fédé a déposé son petit dossier à l'UEFA pour cela. Juste avant, quelques réactions suite à la venue de Maître Brouza. Tiens, j'ai Cass qui nous dit, tiens, n'oubliez pas, le Real a demandé à Pogba de ne pas aller au bras de fer avec MU, à Manchester en l'occurrence. Le Real demande toujours aux joueurs de se positionner clairement et non de sécher les entraînements. Ça, c'est Fred Hermel nous l'a déjà expliqué plusieurs fois. Hein. Donc, il y a quand même des clubs qui effectivement ont des habitudes, en tout cas des habitudes de fonctionnement et des stratégies. Hein.
C'est une manière presque pédagogique vis-à-vis du joueur. C'est-à-dire, si on t'incitait à le faire avec ton club, après tu serais peut-être amené à le faire avec nous. Donc non, ouais, comporte-toi bien avec ton employeur.
Un club qui dit se positionner clairement, mais bon, en gros ça veut dire que tu continues d'aller à l'entraînement, mais par contre tu leur fais clairement sentir qu'il va falloir que tu ailles au Real et vite.
Ça c'est de bonne guerre.
Et puis c'est Julien qui lui dit 222 millions pour Neymar, ça pouvait paraître cher, mais vu l'apport marketing du joueur, c'est un transfert qui rapporte. Il a raison, monsieur Brouza, dit Julien. Toi, j'étais pas tout à fait d'accord.
Personne n'a dit que le transfert ne rapporte pas. Personne n'a dit que c'était pas un bon choix entre guillemets pour le marketing.
Et tu as dit qu'il fallait pas payer ce prix.
Voilà pourquoi il fallait pas payer ce prix. Parce qu'aujourd'hui, ils vont peut-être le revendre moins cher et ils ont égratigné leur image.
François, Kevin, on a la chance d'avoir, à la veille de sa demi-finale de la Coupe d'Afrique, Alain Giresse, le sélectionneur de la Tunisie. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Et bienvenue dans l'after sur RMC. On est ravis de vous avoir. La Tunisie en demi-finale de CAN, c'était pas arrivé depuis 2004. Donc d'ores et déjà, on peut considérer que votre Coupe d'Afrique est réussie, non?
En tout cas, c'était un objectif obsessionnel ici en Tunisie. Ça c'est une évidence. J'entendais parler que de ça. Franchement, c'est vrai. Plus c'était relayé par Roger Le Maire, qui était en poste ici, qui me disait il faut que ce soit un club français qui est encore.
Il a mis la pression.
Lui aussi a mis la pression.
Voilà, tout le monde. Donc, effectivement, c'était bizarre parce que l'approche du match était comme une forme de soulagement après, parce que. Comment dire, il y a toujours une tension avant un match, comme par exemple comme demain. Mais là, on est dans le cadre vraiment de la tension, du stress, je dirais, de la compétition, le bon stress par rapport à un résultat à aller chercher. Alors que là-bas, le quart final, c'était vraiment comme un poids mort à se débarrasser que de pas passer ce stade de la compétition.
Bon alors, ça veut dire que on peut considérer que du coup peut-être que les Tunisiens, vos joueurs seront un peu libérés demain. Ils disent quelque part l'objectif est atteint, donc maintenant c'est bonus quoi.
Oui, on peut le prendre comme ça, on peut le considérer comme ça. En tout cas, ça les a pas démobilisés, ça c'est sûr. Ça a été acquis, tout le monde en a bien profité, tout le monde est satisfait. Maintenant, non, ils sont conscients de ce que ça peut donner un bon match et un bon résultat demain.
Alors demain, face au Sénégal que vous connaissez bien, puisque vous avez été sélectionneur également du Sénégal, ce matin, oui. Il y a eu la célèbre conférence de presse d'avant-match. Les conférences de presse d'avant-match en Afrique, ça peut donner parfois des trucs un peu chaotiques. Ça a été le cas ce matin. Tension entre journalistes, vous avez dû voir ça, entre journalistes sénégalais et journalistes tunisiens. Le joueur qui était avec vous donc n'a pas répondu en français, ça a énervé les Sénégalais et tout. On a l'impression que le match est déjà lancé, hein.
Non, mais attendez, vous savez, je suis habitué avec ces gens-là, là-bas, vous savez. Alors, d'abord, le problème, c'est que il n'y avait pas de traduction du tunisien en français. Donc déjà, c'était compliqué puisque le joueur ne pouvait pas s'exprimer totalement en français. Donc ça les a excités, ces gens-là, qui, comme on le sait, sont d'une correction sans borne.
Ils ont toujours une dent contre vous, vraisemblablement.
Ah si, je peux vous dire que derrière, ça a enclenché, on était dans le même mode que j'avais subi après la CAN 2015. Voilà, ils n'ont fait que me parler de 2015, du passé, etc. Pratiquement jamais du match. Donc je trouve ça complètement décalé, mais je suis pas surpris par l'attitude de ces gens-là. Je devrais pas en parler parce que ça vaut pas le coup.
Oui, coach, bonsoir. Et pour tout de suite parler de foot, la Tunisie a commencé péniblement avec trois matchs nuls dans son groupe, et puis un match nul en huitième contre le Ghana. Après, il y a eu, je ne sais pas si on peut qualifier ça encore de déclic, mais en tout cas, ça s'est décanté contre le Madagascar. Mais avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, vous avez disputé un match amical en Croatie, donc vice-champion du monde, finaliste.
Avec la belle équipe de Croatie.
Il y avait quand même certains, il y avait certains vice-champions du monde dans cette équipe. Luka Modric est entré en cours de jeu, par exemple. Mais vous gagnez là-bas. Est-ce que ce match a un peu trop, donné de confiance à vos joueurs? Est-ce que ça a donné confiance aussi un peu trop à la fédération tunisienne qui s'est dit tiens, on va aller comme ça en fanfaronnant en Égypte, on a une grosse carte à jouer. Est-ce que ça s'est pas avéré finalement être une victoire qui a un peu desservi votre groupe, qui les a un peu trop mis dans une forme de confort?
Pas pour moi, je vous le dis de suite, parce que je sais très bien que les matchs de préparation peuvent donner évidemment de la confiance, peuvent donner des éléments, des repères. Mais ce match-là, dans le cadre d'une préparation un peu particulière que nous avons eue, puisque nous avons eu des contraintes avec 10 joueurs qui nous auront juré que le 7 juin, c'est-à-dire 8 jours après le début de la préparation, et que ces joueurs-là étaient sortis de compétition et qu'il a fallu aller avancer la participation de certains joueurs au match de préparation. Donc, il a créé un décalage. Et c'est peut-être aussi ce match, sur cet aspect-là, est venu trop tôt. Et certes, il s'est très bien passé, c'est une bonne chose, mais il ne correspondait pas dans une programmation de préparation normale. Donc, ça aussi, ça nous a pas servi. Après, peut-être, effectivement, l'environnement, bien sûr que... Et ça y est, tout d'un coup, ça y est, on était déjà champion.
Tu t'en flamades, quoi.
Vous êtes vu trop beau. Pas vous,
on a compris. On était déjà champion d'Afrique, alors que le match après contre le Burundi, on a vu que ce que c'était la compétition et que quand on est rentré là-dedans, c'était compétition, on n'était pas bien sur le plan moral, sur le plan mental, sur le plan physique, et c'est pour ça qu'on a traîné dans cette première partie.
Alors, sans tout dévoiler, Aliou Cissé n'écoute pas RMC ce soir, puisqu'il n'y a pas de fréquence en Égypte. Quelles sont les forces du Sénégal et quelle va être votre stratégie demain?
Les forces du Sénégal, c'est une équipe qui s'appuie sur un effectif, et c'est pas qu'une équipe, c'est un effectif de joueurs de haut niveau, de grand niveau, mais avec évidemment un leader technique comme Sadio Mané, qui évidemment qu'à lui tout seul peut débloquer beaucoup de situations. Et ça, c'est le privilège d'une équipe quand on a des joueurs de cette dimension. Et je les connais fatalement bien. Ils ont encore pris une dimension supplémentaire. Donc voilà, c'est une équipe de qualité, et si vous voulez, la stratégie ou leur organisation peut souffrir un petit peu de manque de rigueur. Quant aux ces joueurs-là, ils compensent largement un petit peu les approximations éventuelles qu'il peut y avoir sur le plan tactique. Donc, quand vous jouez contre ces joueurs-là, dans l'absolu, les très très grands joueurs, il n'y a pas beaucoup de solutions, hein, si ce n'est que de le faire collectivement en réduisant leur marge de manœuvre. Et nous, sur le plan collectif, il faut qu'on soit très organisé, avec beaucoup de rigueur, avec une organisation bien huilée dans le cadre des compensations, des complémentarités qu'il faut avoir. Et après, bien sûr, utiliser le ballon avec beaucoup de précision, de patience et bien sûr d'efficacité.
Kevin.
Moi, j'ai une question pour vous, coach Gires. Vous avez parlé, on a parlé un peu de la préparation, on a parlé des objectifs qu'avait cette sélection. Moi, je voudrais savoir quel était votre objectif personnel avant cette CAN. Est-ce que vous, dans un petit coin de votre esprit, vous aviez cette finale et ce trophée dans un petit coin de la tête où c'était vraiment les demi-finales, l'objectif, on va dire, déjà, entre guillemets, prioritaire?
Vous savez, quand on démarre une compétition, je trouve que c'est réductif que d'être de limiter ses ambitions. C'est-à-dire que, alors c'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais c'est de mettre tous les atouts pour aller le plus loin possible. Alors je sais que vous allez dire, ça y est, vous allez nous parler du match par match, mais moi je peux pas dire. Je trouve que dire envie. Là, en plus, c'était très marqué ici en Tunisie, les demi-finales, et comme si c'était comme une fin en soi. Non, pas du tout. Je crois qu'on met tous les atouts de son côté pour aller le plus loin possible. Et d'ailleurs, ce qui nous a permis, je fais un retour sur notre premier tour, ce qui nous a permis de nous maintenir à flot, c'est qu'il y a eu une prise de conscience et une lucidité de la part de l'ensemble des joueurs, conscients que les prestations n'étaient pas bonnes et qu'il fallait travailler pour rectifier tout ça. Il y a eu adhésion à cela, avec beaucoup de lucidité sur ce qu'on devait faire, et en se cachant de rien du tout, voilà. Et de le travail et d'apporter tout le correctif qui était nécessaire.
Je vous avoue que ça fait plaisir de l'entendre, hein, parce qu'on discutait avec un supporter tunisien cette semaine qui nous disait que l'objectif de la fédération avait été affiché en demi-finale. Et bon, moi j'avais dit, pour être honnête, je comprends pas trop pourquoi on dit que l'objectif c'est les demi-finales. Soit on dit rien, soit je pense qu'un pays comme la Tunisie, alors on connaît après les aléas du football, hein, pénalty, une main, un hors-jeu, voilà. Mais je pense que toute grande sélection, comme vous venez de le dire, lorsqu'elle s'engage dans une compétition, c'est pour la gagner, c'est ce que vous venez de le dire.
Alors,
donc, tant mieux.
Deux questions très précises. Est-ce que Wahbi Khazri est en forme et est-ce qu'il sera titulaire demain? Et est-ce que tout va bien avec Moez Hassen après l'histoire de la séance de tir au but de l'autre jour?
J'en ai une troisième précision aussi.
Alors, bon, la première question de Wahbi Khazri, oui, ça va mieux. Il monte en puissance. Il a fallu, pas évident, de le relancer après le championnat. Donc, là aussi, c'est tout à l'heure quand je parlais de joueurs qui ont joué un peu plus trop vite par rapport à ce qui était prévu, et ben il en fait partie, mais on pouvait pas faire autrement. Là, maintenant, ça va. Il est bien, on retrouve des sensations. On retrouve le Wahbi Khazri de Saint-Etienne. Après l'épisode de Moez Hassen, oui, ben écoutez, c'est un épisode qui a été traité, qui est maintenant au rayon des souvenirs. Tout est rentré dans l'ordre. La preuve, c'est qu'il joue et que ça ne pose problème à personne.
Et il s'est excusé.
Oui, mais ça c'était la moindre des choses. Ça,
la moindre des choses. Une autre question précise, coach, par rapport à Kenissi, votre attaquant, qui est maintenant, on va le voir peut-être demain, mais en tout cas que vous avez titularisé récemment. Pourquoi est-ce que il n'a pas commencé titulaire cette Coupe d'Afrique des Nations?
Bah parce qu'on partait sur notre type de secteur offensif, c'est-à-dire que notamment avec Wahbi en attaquant axial, avec Naïm Spiti aussi avec dans le trio offensif, mais que ce secteur offensif a eu du mal à trouver son bon rythme de jeu, sa complémentarité, et donc tout naturellement après on a pu constater que Wahbi est un joueur attaquant, mais qui est aussi qui vient toucher le ballon, alors qu'il nous fallait un joueur de profondeur et Renissi et celui-ci. Et donc,
du coup, il soulage un peu plus le Khazri, Msakni.
Oui, absolument. Oui, c'est ça, parce qu'il donne de la profondeur et il se déplace beaucoup et il permet effectivement à ces deux joueurs que vous avez cités de venir profiter de ces déplacements et de tout ce qu'il apporte dans les possibilités offensives en créant toute tous ces déplacements pour permettre aux autres joueurs d'en profiter. Oui.
Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui s'est passé avec votre collaborateur qui a quitté l'équipe, le préparateur mental qui était arrivé avec vous,
Le Goff?
Oui, eh bien, Le Goff qui travaillait sur le préparateur mental et qui avait travaillé déjà depuis au mois de mars et là, bah écoutez, au terme du match de la Mauritanie, on a considéré que son travail était terminé parce que c'était pas forcément ce que mentalement il y avait des reproches à faire sur les joueurs, parce que vous savez, quand à ce moment-là, quand comment dirais-je, quand il y a ces prestations comme on les a eu au premier tour, je peux vous dire que tout ce débat là, en ce qui concerne les reproches de la forme de l'équipe, c'est technique, c'est tactique, c'est mental, c'est tout ça. Enfin bon, on y passe tous. Et puis je peux vous dire que tout le monde a raison, hein, dans ces cas-là. Ça, c'est une évidence. C'est tellement avec des prestations comme ça, ils ont tous raison. Ça, c'est une... Sauf que quand on est un entraîneur, on doit juger sereinement et avec beaucoup d'objectivité ce qui ne va pas et ce qu'il faut travailler. Par contre, bon, ben là, on a considéré que non, ben c'était bon sur le plan
mental. Vous avez été associé à la décision, quoi. Ça s'est pas fait dans votre dos.
Voilà, il y a des prises de décision qui ont été prises au niveau des instances. Moi, je l'aurais été fatalement, bien sûr, parce que je le connaissais, que j'avais travaillé avec lui au Mali et au Sénégal, qu'il avait bien travaillé, notamment entre les deux matchs avec Moïse Hassan après sa bêtise contre le Mali. Voilà. Bon, après, ça a été vu d'une autre façon. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé.
Là, nous, on a pas mal de supporters tunisiens qui nous appellent. Évidemment, tout le monde, tous les Tunisiens là, sont à fond. Et on compare, là, en Tunisie, votre parcours à celui du Portugal 2016 en termes de jeu. Donc, les Tunisiens disent, on gagne, mais on se régale pas. Est-ce que cette comparaison, vous la comprenez? Vous êtes d'accord ou est-ce que ça vous contrarie?
3 nuls en poule aussi.
Pardon?
3 matchs nuls en poule.
Comme le Portugal 2016, en l'occurrence.
Voilà, comme l'Italie en 82.
et oui, exact, qui a été championne du monde.
Et oui.
Et voilà. Bon, oui, je pense qu'aujourd'hui, je pense que le Maroc, pour continuer sur ce petit chapitre, le Maroc, le Cameroun ou l'Égypte souhaiteraient avoir fait 3 matchs nuls et se retrouver en demi-finale aujourd'hui, plutôt que d'avoir fait 9 points lors des 3 premiers matchs. Bien sûr, mais je suis le premier à déplorer que les prestations ne soient pas aussi enlevées que cela. Ça, c'est une évidence. Après, je vais pas faire la fine bouche quand ça permet quand même, on peut quand même atteindre les objectifs. Je veux dire, je suis bien passé pour savoir que d'avoir fait des grands matchs et plein d'émotions et les avoir perdus par élimination, c'est très douloureux. Donc, le principal, c'est arriver. Alors, faire le comparatif avec le Portugal, oui, on fait toujours des comparatifs par rapport à des situations qui sont déjà produites. En tout cas, on ne veut pas les imiter. Hein. C'est les circonstances qui font comme ça. On ne veut pas les imiter, les Portugais. On veut sauf les
on
imiter.
Vous le souhaite, on vous le souhaite de les imiter.
C'est évident.
On vous le souhaite de les imiter.
Pardon?
On vous le souhaite de les imiter.
Oui, pour aller chercher la coupe, finalement, ouais. Après de dire on va jouer comme le Portugal, on va
Vous savez que les Portugais avaient une chanson. Peu importe si on joue bien ou mal, ce qu'on veut, c'est ramener la coupe à la maison.
Bon, ben voilà.
Mais attendez, écoutez, on ne peut pas dire non plus que notre équipe de France qui a été championne du monde est toujours fait l'unanimité en ce qui concerne le panache et le
produit. C'est le moins qu'on puisse dire.
On est d'accord.
Et on a tous été très heureux que la coupe soit à la maison aussi. Hein.
Alain Giresse, on vous remercie, c'était sympa de nous accorder.
J'avais une toute dernière question. Si on se projette un petit peu dans la fiction, vous êtes finaliste et puis Nigeria est finaliste. Il va y avoir de drôles de retrouvailles.
Attendez, je vous arrête de suite, j'ai tout à fait compris.
Il va y avoir de drôles de retrouvailles avec Garnot.
J'avais compris. Mais ça ne me dérangera pas. Non, je vous dis, dans ce cas-là, dans ces conditions-là, pas de problème. Je suis preneur.
Oui, puisque vous avez été longtemps coéquipier, évidemment.
Et adversaire dans un match qui était un peu.
Qui était un peu tendu.
Un peu tendu, c'est un euphémisme.
Mais
surtout coéquipier.
Je promets que je ne taclerai pas sur le banc de touche, je promets.
Non, c'est lui qui taclait. C'est lui qu'il faut faire attention. Attention.
Je ferai attention à lui, je mettrai mes protégés bien. Je serai le premier entraîneur avec des protégés bien sur le banc de touche.
Merci à la GRS.
Merci.
Merci beaucoup, bonne soirée, bon match demain.
Bonsoir, merci beaucoup, bonsoir.
Bonne soirée. Oui, alors rappelons ce qui s'était passé. C'était que Giresse était coéquipier de Garnot à Bordeaux, deux joueurs historiques des Girondins. Alain Giresse part à Marseille évidemment, le coach belge à l'époque, Coudrage, le président de Bordeaux. Giresse revient jouer à Bordeaux-Marseille. Ouais. Et là, il se fait découper par Gerd Rohr, qui en gros avait été l'homme à qui on a dit voilà, le contrat, il est pour toi.
Et quand on parle de découpage, aujourd'hui, tu vois, mais c'est pas possible ça, mais ça valait peut-être 4 cartons rouges d'un coup, quoi. C'était vraiment un assassinat.
Dans quelques instants, Babacar au 32-16, il est supporter sénégalais, et on aura Timothée Mémon, qui est notre envoyé spécial en Égypte à la veille des demi-finales de la CAN. On se retrouve tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot. Gilbert Bribois.
François Bernardo, Kevin Diaz, la CAN est au programme. On a eu Alain Giresse que vous avez entendu donc il y a quelques instants. Et on a Babacar au 32-16 désormais. Babacar sénégalais qui évidemment attend le match de demain sans doute avec impatience. Salut Babacar.
Salut Gilbert, salut à toute l'équipe.
Bonsoir.
Salut Monsieur Triplé.
Salut, oui, Monsieur Triplé, t'as raison, Kevin Diaz.
Bien sûr que j'y étais, mais tu as régalé avec le pied. Je me permets de vous tutoyer. Hein.
Ouais, non, mais
t'as préféré lequel?
L'homme du match était Simone Rovera. Arrêtez de me parler de Kevin, s'il vous plaît.
Moi j'ai aussi bien aimé David Lortho.
David Lortho, exactement. Les deux plus grands techniciens de ce match de l'after.
Et Jonathan
McCarthy,
t'as pas aimé?
je vais pas m'avancer. Je veux pas dire de bêtises. Arrêtez.
Babacar, tu fais preuve d'une grande classe. Je t'en remercie.
Oui.
Est-ce que t'es inquiet pour demain? Est-ce que tu te dis, attention, la Tunisie, c'est pas une équipe qui nous convient? Enfin, comment tu vois cette demi-finale?
Moi, je veux dire, je ne suis pas inquiet. Je suis raisonnablement optimiste. Après, comme on dit toujours, je ne vais pas le dire en mode Henri CV, mais en tout cas, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Moi, voilà. Depuis le départ, je dis souvent à mes amis...
C'était Wadou qui ne voulait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendu.
Bon, Henri m'excusera.
Enfin, qui voulait, non, c'était pas ça d'ailleurs le truc. Enfin, bon, bref, on s'en fout. Vas-y.
Et donc moi je dis souvent à mes amis, les gars, faut se calmer, parce que dès les matchs de poule, ça parlait de finale, de demi-finale. Pour utiliser une expression de foot, moi tout ce qui compte vraiment c'est le match qui arrive. Donc là, moi c'est celui-ci qui arrive. Moi je sais que si on le prend par le bon bout, en étant sérieux, concentré, et surtout en faisant preuve d'une chose que j'ai trouvé qui nous avait manqué lors du match de quart, c'est la vitesse dans les transmissions. C'est tout simple. La preuve, dès qu'on a commencé à le faire, genre dans les 25 dernières minutes, le Bénin était tout de suite en difficulté parce qu'il n'avait plus le temps de se replacer comme il fallait. À un moment donné, ça ronronnait. Et ce que j'aime bien aujourd'hui dans l'équipe, c'est vraiment qu'on a un milieu de terrain quelque part qui joue au ballon. On n'a plus nos costauds là, qui étaient là aujourd'hui avec CV, Pape Alioun et Ghana, et surtout le travail de...
Ah bah Gueye, pour l'instant, c'est peut-être le meilleur joueur du Sénégal depuis la compétition.
Absolument. Ghana actuellement. Et d'ailleurs, de la dernière fois, Gilbert, j'avais répondu à ton tweet pour dire que je pense que c'est certainement le milieu terrain l'un des plus sous-cotés de la première ligue.
Ah, tu as vu que le PSG a repris contact avec lui, hein, donc
après nous avoir entendu dans l'after.
Nous, on trouve que c'est vraiment notre N'Golo Kanté, avec peut-être juste N'Golo a certainement une caisse beaucoup plus.
Oui, mais N'Golo Kanté n'a pas cette faculté qu'a Gueye d'aller vers l'avant, comme le faisait par exemple Vieira à l'époque. Tu vois, Gueye, on l'a vu quand il a marqué son but d'ailleurs. Là.
Ouais, c'est vrai.
Et je pense c'est un excès de respect des consignes. Mais là, avec le travail de Pape Alioun, ça lui permet de se projeter.
Babacar, est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que si demain le Sénégal n'élimine pas la Tunisie, c'est un échec? Dans le sens où là je t'entends, alors tu te caches un peu derrière des dictons de footeux comme tu dis, mais excuse-moi, vous avez quand même une belle équipe, une meilleure équipe que la Tunisie, et pour moi vous devez vous qualifier, sinon comme je viens de te dire, c'est une contre-performance.
Écoute, en fait, je voulais juste éviter de faire de fanfaronner. Moi, au fond de moi, depuis le début, j'ai eu une conviction, c'est qu'on va gagner cette CAN. En fait, pour faire simple, moi, je te le dis clairement, même l'Algérie qui nous a tapé, je pense véritablement que c'était un mal colombien. J'ai l'intime conviction que cette CAN, on va la gagner enfin. Moi, je dis, tout ce qui compte aujourd'hui pour moi, je m'en fous qu'on joue bien ou mal. Je m'en fous. Tout ce qui compte.
Ah non, tu nous dis pas ça. Tu nous dis pas ça. Pas
d'aller chercher la coupe.
Pas nous.
Ils n'ont jamais gagné. Hein,
mais non, moi je comprends les Sénégalais.
Moi je comprends les Sénégalais aussi. Voilà. Ils n'ont jamais
accroché. Palmarès zéro. Si tu peux en gagner une moche, tu vas la gagner, t'es content. Hein.
Là, sur les 4 demi-finalistes,
je connais ça.
Sur les 4 demi-finalistes, c'est les seuls, entre guillemets, c'est celle plus chaude.
Le tweet pour l'équipe type vers 1h du matin, je ne sais pas pourquoi. Mais je vais dire une chose. Certainement, l'équipe sénégalaise la plus talentueuse, c'était celle de 1986. Et on l'appelait les SNF, c'est-à-dire les Sénégalais de France. Et cette équipe était extraordinaire. Il y avait Lamine Ndiaye de Mulhouse, je ne sais pas si vous vous souvenez, au milieu.
Voilà, mais tu vas pas nous refaire l'équipe qu'on a fait hier soir, là, Babacar.
Oui, mais justement, j'étais occupé et j'ai reçu le tweet à 1h du matin. Après, j'ai balancé sur la page mon équipe, mais c'était après j'ai...
c'était trop tard.
Moi j'avais une question, Babacar. T'as pas l'impression que depuis le début de cette CAN, quand même, et ça peut se comprendre, mais vous vous en remettez un peu trop à Sadio Mané?
Absolument. Eh ben, merci beaucoup. C'est ce qui nous est arrivé contre l'Algérie. J'ai trouvé que au niveau de la liaison attaque milieu, ben c'est comme avec l'absence de Ghana, il y avait pas ce qu'il fallait. Justement, moi je trouve
Ghana,
que
Ghana c'est gay, hein, mais au Sénégal on l'appelle Ghana.
Exact. Ah, d'ailleurs, je vais en profiter aussi pour faire une précision langagière. Gilbert, quand on dit Omar Gueysen, c'est juste Sen, c'est pas Séné. Eh oui.
Très
je
bien,
t'ai entendu.
Mais Gay, il a quoi comme nom sur son maillot?
Ghana.
Qui ça?
Avec Everton.
Ben, Gay.
Ouais. Gay. C'est ça aussi qui nous a mis en erreur. Désolé.
Et par ailleurs, j'aimerais préciser une chose, si vous me le permettez. J'aimerais que la plupart de mes compatriotes sénégalais sachent que Sadio Mané est le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal.
Merci.
En termes de niveau.
Merci. Merci, Babacar.
En termes de niveau, comment dire, François, tu sais pourquoi je le dis? En termes de niveau, le niveau que ce mec a atteint et sa régularité depuis 4 ans.
Et son état d'esprit.
Moi, je suis d'accord.
N'oublie pas, Babacar, son état d'esprit.
Moi, je suis alors, ok, il a peut-être pas le charisme d'Eladji Diouf.
Il a pas
connu les frasques d'Eladji Diouf.
Merci beaucoup.
Mais, en termes de niveau et de régularité, et de palmarès, il est déjà au-dessus.
Et oui.
Absolument. Ouais. Et vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Pourquoi Eladji Diouf, les Sénégalais aiment beaucoup? Parce que tout simplement, effectivement, sur le terrain, voilà, il mettait ses couronnes et ça, et rien à dire. Sauf que le mec, à part sa saison 2001-2002 à Lens, où je crois qu'il a mis 10 buts, et la saison qu'il a passée à Bolton, avec Okocha, où il avait été pas mal, mais il n'a absolument rien fait dans sa carrière. Quand j'entends même les comparaisons me dérangent. Je dis très souvent que peut-être que je vais être dur, même Souleymane Camara qui
donc, en 2002, il vous sert à rien?
Absolument, on a mis 14 buts pour se qualifier et c'est lui qui a mis les 8. Je n'ai jamais dit que j'ai dit sa meilleure saison, c'est après
quand
2002,
même.
Il n'a rien fait.
Quand même, tu
il
lui attends un peu de crédit.
Fait. Et en d'autres, et aussi, vous savez quoi, moi, ce qui me dérange le plus dans son discours, je n'ai jamais entendu Zidane, Maradona, ou en tout cas les meilleurs footeux de l'histoire, se permettre sur un plateau de dire j'étais un joueur exceptionnel, je réglais des problèmes. Quel problème il a réglé? On a absolument
rien. Le palmarès du Sénégal, comme ça,
à part les Jeux de la Francophonie de 1963, le palmarès du Sénégal, il est vierge.
Il fallait nous le rappeler, ça, le jeu de la Francophonie de 1963.
Ah oui, parce que.
On est d'accord, Babacar.
Bon,
t'énerve pas, on est d'accord.
Il faut qu'on s'arrête là.
Gilbert, est-ce que je pourrais passer demain?
Non, alors tu sais ce qu'on va faire? Parce que demain à 18h, c'est pas encore l'heure de l'after, tu le sais. Donc ce qu'on fait, Babacar, c'est que si le Sénégal se qualifie, tu viens en studio pour la finale.
Avec grand plaisir.
On fait ça. Salut, Babacar.
Salut, Babacar.
Et puis rendez hommage à Aliou Cissé. Hein. Rendez-lui hommage.
Bah ouais, c'est Dieu. On l'aime bien.
Parce
on l'a mis dans l'équipe.
Malgré certains anciens qui sont pour la plupart fauchés là, qui essaient de saper son autorité et son travail, moi je trouve que les résultats parlent pour lui. Le mec sur la scène continentale depuis 4 ans, il a perdu un match. Plus celui qu'on a perdu.
En fait, tu peux commencer l'affaire à 18h hein, si on prend Babacar.
33 ou 34 matchs.
Salut Babacar, merci.
Ciao Babacar.
Bonne soirée. Bonjour la famille.
Très vite.
Allez.
Dans quelques instants, Timothée Mémon, comme promis, il est en Égypte. Il a assisté à la conférence de presse de Jamel Belmadi, les Algériens demain soir face au Nigeria. Bien sûr, le reste de l'actu également, plus équipe type, équipe pipe de l'Algérie. Donc une dernière heure plutôt algérienne, mais pas que, dans l'after.
RMC, l'afterfoot.
This is the sound of a man who unexpectedly fell into cold water and instinctively is trying to swim hard. This is the sound of the cold water shock making him gasp uncontrollably and breathe in water until he drowns. Whereas this is the sound of a man who fell into cold water and knows how to survive.
You have to fight your instinct to swim and just float until the cold water shock has passed and you can control your breathing. This is a safety message from the RNLI. Float to live. Visit respectthewater.com.